Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne une fois de plus d'être compté parmi les vivants, parmi ceux qui lui donnent gloire avec le souffle de vie qu'il nous donne. Alléluia. Nous allons continuer avec notre séminaire. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu en ce début d'année, puisque comme Moïse, nous avons pris la résolution de dire à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Alléluia. J'espère que c'est ce que tu as comme soif au fond de ton cœur. Et j'aimerais juste, avant de commencer, aujourd'hui nous allons aborder le thème, le sous-thème apprendre à écouter Dieu dans la prière. Apprendre à écouter Dieu dans la prière. Mais avant cela, j'aimerais demander, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend la signification de la croix. Quand nous avons la croix ici dans le temple, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous partager ce que la croix évoque pour sa vie? Librement. Oui.
Shalom encore. Quand je vois cette croix, elle me touche particulièrement parce que, en fait, avant, je ne comprenais pas trop le sens de la croix. Jusqu'à ce que, quand le Seigneur a fait grâce que nous visitions, que nous vivions en Chine pour peu de temps, nous avons remarqué que le gouvernement chinois s'était dit de doter toutes les croix, parce que sur les églises protestantes en Chine, ils mettent croix in extérieur. Alors, le gouvernement chinois avait décidé de doter toutes les croix. Il ne voulait plus que les églises soient reconnues de loin. Alors, je me suis dit, c'est que cette croix doit faire mal à quelqu'un. Parce que moi, je trouvais la croix, normale, kitu wa kawaida. Quand ils ont fait ce système-là, ils ont levé les croix des églises, de l'extérieur des églises. J'ai commencé à réfléchir sur la croix et son sens a vraiment changé dans mon cœur. Quand je vois la croix aujourd'hui, je vois le salut, je vois la voie par laquelle moi je suis rachetée et je vois directement un signe aussi d'évangélisation. Exemple, quelqu'un qui porte une croix, par exemple une médaille de croix, normalement ça m'interpelle, ça me dit, cette personne-là est en train de communiquer un message, il veut appeler les gens au salut. Donc quand je vois la croix, je vois le salut, mon salut, et je vois l'évangélisation, l'appel au salut des autres. Merci.
Merci. Il y a quelqu'un d'autre, un papa? Qu'est-ce que la croix évoque pour vous? Oui.
Merci. Pour moi, quand je vois la croix, je vois la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Et la fossée qui nous séparait de Dieu après la chute est reconstituée par la croix de Jésus-Christ pour nous donner la possibilité d'aller vers notre Père.
Amen. Amen, amen. Alors, je suis sûr que chacun de nous, quand il voit la croix, il y a un message qui lui concerne. Et ce message tourne autour du salut, n'est-ce pas? Alors, pendant que nous étions en train de prier, j'ai été porté à ce que la Bible dit dans Romains chapitre, je ne sais pas si nous pouvons lire ça ensemble. Romains 8, 32, la Bible dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Alléluia. À la croix, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Et l'apôtre Paul dit, puisqu'il n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je ne sais pas si vous comprenez ce que la croix signifie aussi par rapport à ce que nous avons comme prière. La croix n'est pas seulement, en plus d'être le symbole du salut, la croix, c'est aussi une garantie. une garantie pour l'exaucement à nos prières. Alléluia. Parce qu'à la croix, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et parce qu'il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux, tout ce que nous amenons dans la présence de Dieu comme requête, c'est rien par rapport à ce que Dieu a offert à la croix. Alléluia. Tout ce que nous demandons, c'est rien par rapport, s'il y a une chose que Dieu aurait pu nous refuser, c'est Jésus. Mais il ne nous a pas privés de son propre Fils. J'aimerais vraiment le dire au début de ce message parce que nous allons parler d'apprendre à écouter Dieu dans la prière. Je vais dire ici beaucoup de choses bien-aimées dans le Seigneur. Mais dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui, je vous en supplie, présence de Dieu, retenons une seule chose. C'est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, avec des requêtes, lorsque nous nous adressons à Dieu, souvenons-nous que nous avons une garantie, que tout ce que nous lui demandons au nom de Jésus, nous l'avons. Alléluia. C'est ça la garantie pour l'exaucement à nos prières. Et c'est important que lorsque nous nous approchons de Dieu, que nous nous approchons de lui avec la foi qu'il écoute et qu'il exauce la prière. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe chapitre 22. Nous avons deux passages de base pour notre méditation de ce matin. Ésaïe 55. Je vais lire à partir du premier verset. Je vais m'arrêter à la deuxième partie. Oui, je vais m'arrêter au verset 3. Ésaïe 55, 1 à 3. Ensuite, nous allons, quelqu'un peut préparer Jérémie, chapitre 33, verset 3. Quelqu'un d'autre va lire ça dans la salle. Ésaïe 55, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance pour rendre durable mes faveurs envers David. » Alléluia. Pardon, Jérémie 33, 3, merci. Alléluia. Ces deux passages, ce sont des déclarations que Dieu fait et qu'il adresse à son peuple. Dieu dit, vous qui avez soif, venez, venez à moi. Cette parole fait écho à ce que Jésus-Christ dira lui-même dans les évangiles. Lorsqu'il se tiendra à un moment donné au temple, il dira, vous tous qui avez soif, venez, venez à moi. Dieu s'adresse à son peuple, il s'adresse à nous aujourd'hui. Et il dit ensuite, il dit en plus, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dans ces deux passages, Dieu nous invite vers lui. Il nous invite à nous approcher de lui. Parce qu'il sait que c'est lui, il a quelque chose qui puisse satisfaire nos vrais besoins. Et nous devons donc comprendre, lorsque Dieu s'adresse à nous, voyez, souvent lorsque nous prions, nous comportons comme si, lorsque nous prions, nous commençons à prier parce que nous avons ressenti le besoin de prier. Quand nous avons un fardeau, c'est à partir du moment où nous ressentons le fardeau que nous nous approchons de Dieu. Et parfois, nous pensons que c'est ce fardeau-là où que Dieu est. Parfois, nous comportons comme si nous venons informer Dieu de ce qui se passe et de l'urgence que Dieu puisse intervenir dans la situation. Et nous oublions que, en réalité, Dieu nous a précédés. En fait, chaque fois que nous avons un problème, un fardeau, Dieu était disponible. Dieu avait la solution au problème que nous ressentons avant même que nous ressentions ce problème-là. Je ne sais pas si nous comprenons ce que je suis en train de dire. Parce que quand Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif », Dieu se montre disponible à répondre à notre besoin avant même que nous nous présentions devant lui. Dieu nous a précédés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous venons dans la présence de Dieu avec une telle attitude, ça va changer la manière dont nous prions. Nous n'allons pas prier comme des personnes qui sont désespérées, mais nous allons prier comme des personnes qui ont de l'espérance. Alléluia. Et c'est une manière très puissante de manifester la foi. Je vais commencer par essayer de répondre à la question pourquoi nous devons apprendre à écouter Dieu. Parce que notre thème, c'est apprendre à écouter Dieu dans la prière. Pourquoi nous devons apprendre à écouter Dieu dans la prière? Deuxièmement, je vais parler de comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Et je vais terminer en disant un mot sur comment ne pas se tromper lorsque nous cherchons à écouter Dieu. Pourquoi apprendre à écouter Dieu? Le passage que nous avons lu contient une partie de la réponse. Pourquoi apprendre à écouter Dieu? Eh bien, tout simplement à cause de ce que Dieu dit. Dieu nous invite vers lui. Et s'il nous invite vers lui, c'est parce que c'est lui qui connaît mieux nos vrais besoins. Donc, si Dieu connaît mieux nos vrais besoins, nous avons donc intérêt à chercher à l'écouter. Alléluia. Ce que nous ressentons comme douleur, par exemple, lorsque nous sommes malades, nous ressentons le besoin de la guérison. Ça, c'est ce que nous ressentons. Lorsque nous avons faim, nous ressentons, l'estomac nous rappelle que nous avons un besoin à satisfaire. Est-ce que vous savez que nous avons des besoins spirituels que nous ne ressentons pas dans notre chair? Nous avons des besoins spirituels, mais que nous ne ressentons pas. Nous ne pouvons pas les ressentir dans notre chair parce que ce sont des besoins spirituels. Nous ne pouvons pas les sentir avec nos sens. Alors, le seul moyen pour Dieu de nous éveiller à nos besoins spirituels, c'est parfois de venir avec des sensations physiques qui vont nous pousser à le chercher. Je ne sais pas si nous comprenons. Nous ne sommes pas faits seulement de chair. Alors, si... Par exemple, si Dieu veut, Dieu peut savoir à l'avance que dans ce premier trimestre de 2023, Abel a besoin de me connaître davantage, a besoin de mieux me connaître sur la manière dont j'opère. OK? Ça peut être un besoin, mais que je ne connais pas, ou bien il y a un défi devant lui dans son travail et il aura besoin de ma sagesse pour répondre à ce défi. Moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas sentir ça dans ma chair. Mon estomac ne peut pas me donner ce message. Alléluia. Mais Dieu sait que j'ai besoin de cette sagesse-là. J'ai besoin de grandir parce qu'il y a un défi devant moi. Alors, qu'est-ce que Dieu fera pour que je puisse acquérir cette sagesse? Alors, Dieu va utiliser tout ce qu'il veut utiliser comme circonstance dans ma vie pour que je passe plus de temps dans sa présence, pour que j'aille le chercher dans la prière, pour que j'aille le chercher dans la connaissance des Écritures, parce qu'il sait que j'aurai besoin de cette connaissance à un certain moment donné. Alléluia. Mais seulement ce besoin de sagesse, je ne vais pas le sentir dans ma chair. C'est juste un exemple que je prends pour dire que l'être humain est un être spirituel. Il a aussi des besoins spirituels. De la même manière, nous avons faim physiquement. Notre esprit aussi a faim. Mais seulement nous ne le sentons pas dans notre chair. Et Dieu utilise nos besoins physiques pour nous pousser à le chercher et pour que nos besoins spirituels soient satisfaits. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, « Venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi. » Parce qu'il sait que c'est lui qui connaît les vrais besoins de nos âmes et c'est lui qui a la capacité d'y apporter satisfaction. Pourquoi c'est important d'apprendre à écouter Dieu? Parce que Dieu parle vraiment. Dieu parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Il répond à la prière. Et il répond à la prière de façon personnelle. Il le fait. Ce n'est pas seulement avec ce que nous avons dans les Écritures, les personnages que nous avons dans les Écritures. Mais il le fait encore aujourd'hui. Dieu répond à la prière. Psaume 65, verset 2 dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ça, c'est la déclaration du psalmiste. Et nous, aujourd'hui, nous devons savoir que Dieu est un Dieu qui écoute et qui répond à la prière. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Vous savez, depuis que le Seigneur s'est offert à la croix et que le voile du temple s'était déchiré, nous avons accès au lieu très saint. Ce déchirement du voile est un signe, était un message pour vous et moi, que désormais nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire entre nous et Dieu. Nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur humain. Vous et moi, de la même manière, le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu une fois l'an, mais avec la nouvelle alliance inaugurée avec la croix, nous avons accès au lieu très saint, 24 heures sur 24. Alléluia. Malheureusement, nous, les chrétiens, les croyants de la nouvelle alliance, beaucoup d'entre nous, nous aimons vivre dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et beaucoup de chrétiens croient que Dieu ne peut pas leur parler. Ils pensent que Dieu doit nécessairement passer par un prophète, un pasteur, ainsi de suite. Bien-aimés, ce n'est pas normal. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu veut révéler sa parole, sa volonté à chacun d'entre nous individuellement. Chacun d'entre nous. Si nous croyons ici, à Gomaville, que Dieu peut nous parler individuellement et nous commençons à écouter Dieu individuellement, bien-aimé dans le Seigneur, cette église va changer. Cette église va changer. Et moi, je suis convaincu que Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Pourquoi nous devons apprendre à écouter Dieu? Parce que écouter Dieu nous fait économiser beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie dans toutes nos entreprises. Toutes les choses que nous faisons sans Dieu, sans avoir écouté Dieu, peut nous fera passer trop de temps et trop d'énergie. Le frère Mouindo ici, qui l'a enseigné, nous a appelé à réfléchir sur le cas de Moïse. Vous voyez, quand Moïse voulait délivrer le peuple, son peuple, en s'attaquant aux soldats égyptiens. Mais Dieu a résolu le problème en un seul jour. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'à un moment donné, Moïse écoute ce que Dieu voulait faire. C'est lorsque Moïse a écouté Dieu, et la machine s'est mise en marche, le plan de Dieu s'est mis en marche. Et le salut est arrivé en un seul jour. Alléluia. Avec Dieu, lorsque nous écoutons Dieu, je ne sais pas dans quoi vous êtes impliqué, dans votre travail, dans votre foyer, quel que soit le projet que vous avez. Si seulement vous écoutez celui qui connaît l'avenir, celui qui maîtrise les temps et les circonstances, celui qui est capable de changer les temps et les circonstances, si nous apprenons à l'écouter, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire beaucoup avec très peu. Même en tant qu'Église. Et ça, c'est très important puisque nous sommes au début de l'année. Si nous ne développons pas la culture de chercher Dieu dans tout ce que nous avons comme activité, d'abord, avant de commencer à planifier, discuter, mais chercher Dieu, pas seulement chercher Dieu parce que c'est un rite. Je l'ai dit hier. Il y a des prières que nous faisons par rituel simplement. On sait qu'avant une réunion, il faut commencer par la prière. Alors on commence. Ah Seigneur, viens, viens. Et puis c'est terminé. Allez, maintenant, tout chamaïs a bien moung, maintenant tout fagne vite. Et on commence à faire les choses comme on les avait planifiées, comme on les avait pensées. Ce n'est pas de cette prière-là que je parle, mais je parle de la prière de celui qui va dans la présence de Dieu en s'attendant à ce que Dieu lui donne une révélation, une direction, une orientation. Et même en allant jusqu'au point de dire, Seigneur, montre-nous par quelle voie nous devons, sur quel pas nous devons marcher. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons nous engager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de projets, mais j'aimerais nous inviter pendant ce séminaire, pendant ce mois de janvier. Mettez Dieu à l'épreuve et vous allez voir. Dites au Seigneur, Seigneur, cette année, j'ai des désirs, j'ai des projets, c'est vrai, mais je ne vais pas m'engager dans quelque chose tant que tu ne m'as pas montré la voie. Tant que tu ne m'as pas donné une parole, je ne vais pas m'engager. Mettez Dieu à l'épreuve, vous allez voir. Alléluia. Dieu écoute la prière vraiment. Et Dieu nous fait économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et de ressources. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à l'écouter. Alléluia. Pourquoi nous devons écouter Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes ouvriers avec Christ et que si cet édifice que nous sommes en train de construire, c'est l'Église de Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu l'architecte. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ouvrier qui construit à sa manière, sans consulter le plan de l'architecte. Rien de plus dangereux que cela. Cette œuvre ici que Dieu a commencée, Gomaville, l'œuvre que Dieu a commencée dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre famille, c'est Dieu qui en est l'architecte. Alléluia. Faites attention à la manière dont vous bâtissez. Cherchez à écouter la voix de l'architecte. Vous verrez que votre travail sera magnifique. L'édifice, votre contribution à l'édifice sera magnifique, glorieux. Alléluia. Nous devons écouter Dieu. Il y a beaucoup d'autres raisons que nous pouvons évoquer, que nous pouvons trouver. Mais j'aimerais passer à la deuxième question. Comment Dieu parle? Job chapitre 33, verset 14, nous connaissons ce passage, nous dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » Job 33, verset 14. Lorsque nous voyons la vie de Job est un exemple parfait pour nous montrer comment Dieu parle de diverses manières. Dieu parle de diverses manières. Et l'une des manières par lesquelles il parle, c'est par sa parole, par les Écritures. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Que dit 2 Timothée chapitre 3, verset 16? Oui, c'est aussi un passage très familier pour les lecteurs de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, n'est-ce pas? Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voie principale, la voie la plus utilisée par Dieu pour communiquer avec nous. Il y a un serviteur de Dieu qui dit que Dieu ne veut pas vous parler si votre Bible est fermée. Vous n'allez pas écouter Dieu si votre Bible est fermée. Non. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à marcher avec la direction de Dieu parce qu'ils ne sont pas habitués à lire la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible une fois par semaine, vous ne serez pas femme. Imaginez un peu. Si vous rencontrez quelqu'un une seule fois par semaine, comparez, si vous m'écoutez une fois par semaine, peut-être les dimanches, comparez ma voix à la voix de votre conjoint avec qui vous passez du temps dans la maison. À laquelle de deux voix vous êtes le plus familier? Oui? C'est à la voix de la personne avec qui vous passez le plus de temps. Donc, si vous vous retrouvez à Birere, par exemple, et quelqu'un crie, moi je crie, et que votre conjoint crie, vous serez beaucoup plus sensible si c'est la voix de votre conjoint. Vous aurez plus de facilité à reconnaître, ah, ça c'est mon mari, ça c'est mon épouse. Mais vous aurez du mal à savoir que ça c'est la voix de frère Abel. Non. Pourquoi? Parce que vous ne m'écoutez pas très souvent. Il en est de même avec la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible régulièrement, il y a des situations devant lesquelles nous nous retrouvons qui demandent que nous puissions prendre une décision en une minute. On n'a pas le temps d'aller se retirer en retraite. Il faut décider en ce moment-là. Vous n'avez qu'une minute pour décider. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de consulter Dieu dans sa parole, en ce moment-là, à la seconde, vous allez écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va prendre les paroles que vous avez toujours emmagasinées chaque jour. C'est ces paroles-là qui vont maintenant ramener à votre intelligence, à votre conscience en ce moment-là. Alléluia. Nous devons apprendre à chercher Dieu tous les jours. Pas seulement quand il y a un problème. Quand tout va bien, lisez la Bible. Lisez la Bible, créez le temps. Il y a une sœur qui nous a prêché, je n'oublierai jamais cette prédication, ça date de plus de 10 ans. Le thème de cette prédication, c'était « Chercher Dieu pendant les temps faciles, pendant les bons moments. » Oui, chercher Dieu pendant les bons moments. Parce que quand on cherche Dieu pendant les bons moments, lorsque les moments deviennent difficiles, on a moins de mal à reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Dieu parle par les Écritures. Dieu parle également par la paix intérieure. La paix intérieure. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais faites quoi? Dieu nous dit, faites connaître vos besoins. Ça, c'est ce que nous devons faire lorsque nous prions. Alléluia. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous disons, levons-nous, nous allons prier. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire connaître à Dieu nos besoins. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire en retour? Verset 7. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous répond par la paix intérieure. Dieu nous répond par la paix intérieure. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire, une paix qui surpasse toute intelligence? C'est une paix que toi-même, tu ne comprends pas. Oui. Moi, j'ai eu une mère qui a beaucoup influencé ma foi. Ceux qui ont connu ma mère un peu connaissent la taille des défis devant lesquels ma mère vivait. Et elle est même morte sans que Dieu ne l'ait exaucée pour certaines de ses prières. Bon, Dieu lui a donné beaucoup d'enfants spirituels, mais les personnes qui étaient au top de sa liste pour le salut, ils sont encore vivants, mais elle est morte. Ces personnes ne sont pas encore sauvées. Ma mère n'a pas eu un foyer très facile. Je ne souhaiterais pas à ma fille d'avoir le foyer que ma mère a eu. Non. Mais moi, je resterai toujours béni par la joie et la paix que ma mère communiquait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'un mari ne peut pas vous donner. Il y a des choses qu'un bon mariage ne peut pas vous donner. Il y a des choses que Dieu seul peut donner. Quand je commençais l'université en 2000, j'ai eu mon diplôme d'état en 99, je devais commencer l'université, mais ma mère n'avait pas d'argent pour payer le Minerval. À l'époque, à l'UPC, il fallait payer la totalité pour commencer G1. C'était 300$, mais ma mère ne les avait pas. Alors, j'ai commencé une formation professionnelle en informatique. Elle m'a dit, bon, commence cette formation, en attendant, le Seigneur va pourvoir. Et pendant que je faisais cette formation professionnelle, je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, si ma mère et mon père étaient ensemble, je n'allais pas avoir ce problème en ce moment-là. Alors, pendant que je faisais cette formation professionnelle, ma mère a reçu un cadeau. Il y a un des cousins ou de ses amis qui était en Europe qui lui a envoyé un pagne. C'était des pagnes qu'on appelait métrage. Hein? Je me souviendrai toujours de cette histoire. Ça coûtait cher. Ça venait de l'Europe. Alors, moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, bon, ça, c'est une bonne chose parce que j'ai fait mes calculs. Mais je ne lui ai rien dit. Alors, on avait à la maison une autre cousine qui venait aussi de terminer les études secondaires et qui apparemment n'avait rien à faire. Alors, ma mère a pris ce pagne-là. Elle a vendu ce pagne. Elle a pris le produit de la vente. Elle a acheté à cette cousine un équipement dont elle avait besoin pour commencer sa formation. Ça coûtait cher, cet équipement. Et nous étions dans une situation très compliquée financièrement. J'ai dit, mais... À un moment donné, je lui ai dit, mais vraiment, tu fonctionnes avec quelle logique? Elle me dit, c'est vrai qu'on a des besoins, tout ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on doit agir. J'ai la paix par rapport à ça. Elle a fait. Nous avions déménagé parce que nous vivions trop loin, parce que pour commencer mes études, elle ne pouvait pas payer les transports chaque fois. Elle a dit, ne t'en fais pas, tu vas terminer ta formation, tu vas même commencer l'université sans problème. J'ai dit, mais quelle garantie? Tu lui as dit, non, tu vas voir, Dieu va pourvoir. Mais elle n'avait aucune garantie. J'ai terminé cette formation et miraculeusement, Dieu a pourvu. J'ai commencé l'université l'année qui a suivi. Et cette cousine à moi aussi, elle a commencé sa formation et elle a terminé sa formation en coupe et couture. Elle a terminé sa formation, elle a fini sa formation et puis elle est partie avec sa machine. Et cette cousine, c'était une nièce de mon père. Ce n'était pas sa propre nièce. C'était une nièce de mon père. Elle avait la paix par rapport à ça. Elle était capable de donner des choses qu'elle n'avait pas, enfin, qu'elle n'était pas supposée avoir. Et j'ai appris, j'ai vu Dieu faire des choses comme ça dans la vie de quelqu'un qui s'attend à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que lorsque mon salaire va doubler, vraiment j'aurai la paix. Ou lorsque je veux me marier, j'aurai la paix. Lorsque mes enfants vont finir les études, j'aurai la paix. Dieu donne la paix sans toutes ces choses. C'est pourquoi il dit, venez acheter sans argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent. C'est nous qui avons besoin d'argent, nous. J'ai aimé ce que Nadège, quand elle a chanté, elle a dit, Nasomba kanambongote. Ça, c'est Dieu. Les choses que moi, je pense, pour avoir un ordinateur, je dois chercher l'argent pour l'acheter. Et parfois, nous pensons que Dieu fonctionne comme ça. Et nous venons dans la prière, il dit, Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai vraiment besoin d'argent. Et Dieu dit, je n'ai pas besoin d'argent pour te bénir. Je n'ai pas besoin d'argent pour te donner la paix, la joie. Non. La solution au problème que tu as, Dieu peut apporter ça sans argent. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Dieu nous répond, Dieu nous parle par la paix intérieure. Et cette paix dépasse l'intelligence humaine. Vous-même, vous priez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez un problème, vous priez à la fin de la prière. Vous n'avez pas encore la solution, mais vous avez la paix. Et cette paix est très importante. Je vais vous dire pourquoi. Cette paix est très importante parce qu'à la fin de la prière, le diable nous attend avec ses solutions à lui. Oui. Jésus a été tenté à la fin de son programme de jeûne et prière. Et on lui a amené des solutions qui ressemblent, qui ressemblent à l'exaucement, n'est-ce pas? Tirées de la Bible. Mais si vous avez la paix de Dieu, vous n'allez pas vous agiter. Vous serez confiant. Même lorsque l'exaucement que vous attendez ne s'est pas encore matérialisé, même lorsque les hommes ne peuvent pas encore témoigner que vous avez été béni, mais vous allez marcher comme quelqu'un qui est béni parce que vous avez la paix. Vous êtes imperturbable. Alléluia. Vous savez que Dieu m'a déjà exaucé. Et en son temps, il va le manifester. Alléluia. Dieu parle également par un murmure doux et léger. C'est tiré de 1 Roi chapitre 19, versets 11 et 13. Un murmure doux et léger. Un murmure, une voix douce et légère. Ça, c'est l'expérience d'Élie. Et Dieu nous parle par cette voix-là intérieure. Elle est tellement douce, elle est tellement légère que c'est facile pour nous d'écraser ça. Mais nous devons faire attention. Le Saint-Esprit est doux. Parfois, moi, j'ai un problème parfois avec certains de mes amis qui sont charismatiques et qui associent certaines pratiques au Saint-Esprit. Parfois, on nous donne le spectacle d'un Saint-Esprit très violent. L'Esprit de Dieu est doux. Il est doux, doux. Et on le sent par sa façon de nous parler. Alléluia. Même lorsqu'il parle au pécheur, c'est lui qui l'a offensé. Regardez comment Jésus répondait aux personnes qui le persécutaient. Regardez un peu, examinez dans les évangiles la manière dont Jésus répondait. On est en train de cracher sur lui. Il est en train de saigner. Mais regardez comment il répond. Doucement. Même à Pilate, il pouvait souffler sur lui comme ça, il allait tomber. D'ailleurs, avant qu'on l'amène à Pilate, il avait déjà fait tomber quelqu'un dans le jardin de Gethsemane. On est venu le chercher pour l'arrêter, il dit, mais voici. Et la personne qui est là tombe. Avec cette puissance-là, il se retrouve devant Pilate. Pilate dit, je peux te délivrer. Et il lui répond doucement. Quand on est en train de le faire comparaître, il répond, Je suis sûr qu'à un moment donné, il devait avoir mal. Tu ne réponds pas. On lui pose même la question. Tu ne réponds pas. Et on le gifle. Mais il est doux. Et il nous parle avec la même douceur. C'est tellement facile de mépriser cette voix. Mais je prie le Seigneur que Dieu nous aide à écouter cette voix douce et légère. Alléluia. De ne pas la mépriser, mais d'être sensible à cette voix. Dieu nous parle aussi par les événements. Dieu nous parle par des événements. Les circonstances peuvent, par les circonstances, Dieu peut nous dire que ce n'est pas encore le moment. Attends. Oui. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu ont un sérieux problème avec ça, parce qu'ils sont pressés. Oui. Dieu nous parle par les événements. Vous êtes en train de demander quelque chose au Seigneur, vous vous attendez au Seigneur, Seigneur amène la délivrance, fais ceci. Mais vous sentez qu'autour de vous, les circonstances, tout s'oppose. Attendez, apprenons à nous attendre au Seigneur. La Bible dit que ceux qui s'attendent, bon, en anglais, j'aime bien ça, la manière dont c'est dit en anglais, Isaïe 40, verset 30, vous pouvez lire 29 à 31. En anglais, c'est bien dit, on dit those who wait on the, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui prennent le temps d'attendre, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu, à ne pas forcer les événements. Dieu nous parle également par les manifestations surnaturelles, les songes, les visions, les prophéties. Dieu nous parle aussi de cette manière-là. Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Vous pouvez lire ça, on a parlé beaucoup de temps. Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Actes 16, 5 à 10. Vous pouvez voir, ce sont des passages que j'ai tirés pour appuyer ce que je suis en train de dire. Dieu parle par des prophètes, par des manifestations surnaturelles. Et nous ne devons pas les mépriser. Je l'ai dit hier. Ne méprisons pas la prophétie, mais examinons-la. Alléluia. Dieu a promis qu'il nous visitera dans les derniers jours. Et il nous donnera des songes, des rêves, des visions. Et nous devons faire très attention aux rêves que nous faisons. Alors, j'aimerais dire ici, bon, je vais revenir sur ça au point suivant. Tous les rêves ne sont pas nécessairement des messages que Dieu nous donne. OK? Ça, on est d'accord avec ça. Oui. Mais il y a des rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Et nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à grandir dans l'interprétation de ces choses. Alléluia. Alors, le dernier point, comment ne pas se tromper? Puisque Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par les Écritures, il parle par les rêves, il parle par les visions, par les songes, par les événements, par la conviction intérieure, la paix intérieure. Comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas nous tromper? Alors, premièrement, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons d'abord éviter de nous tromper en évitant de placer notre foi dans les hommes. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7 dit « Malheur, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. » Le premier principe pour ne pas se tromper, c'est de ne jamais consulter un homme avant de vous être tourné vers Dieu. Vous avez un problème, vous avez besoin de la solution. Vous avez un besoin, quel qu'il soit, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous tournez pas vers un homme avant d'avoir vous-même cherché Dieu dans la prière. Parce que dans la prière, Dieu peut vous montrer même vers qui aller. Alléluia. Ne soyons pas pressés de courir vers les hommes. C'est vrai, Dieu a fait des dons dans son Église. Il a déposé des charismes ou des dons dans certains d'entre nous. Il y en a qui ont le don de la parole de la sagesse. Il y en a qui ont le don de prophétie. Il y en a qui ont le don du discernement, ainsi de suite. Et toutes ces personnes sont une bénédiction pour l'Église. Mais attention, toutes ces personnes ne sont que des hommes qui ont des besoins comme vous et moi. Alors, si nous apprenons à commencer d'abord à chercher Dieu avant d'aller vers un homme, bien-aimé, nous minimisons déjà le risque de nous tromper. Oui, nous minimisons le risque de nous tromper. Et nous honorons Dieu lorsque nous le faisons. Alléluia. Deuxième principe, pour ne pas se tromper, lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, c'est que Dieu ne contredit jamais sa parole révélée dans la Bible. Dieu ne va jamais contredire sa parole révélée dans la Bible. Jamais. Jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes les voies que Dieu utilise pour nous parler, nous devons savoir que la Bible fait autorité en matière de foi. Il y a une hiérarchie. Vous ne pouvez pas prendre ce que les Écritures disent, n'est-ce pas? Et vous voulez utiliser la vision pour comprendre les Écritures. Non. Mais il faut utiliser les Écritures pour comprendre la vision. Alléluia. Parce que Dieu ne va jamais contredire les Écritures. Vous avez reçu une parole. N'utilisez pas la parole prophétique pour interpréter les Écritures. Utilisez les Écritures pour interpréter la parole prophétique. Alléluia. Ce principe est très important parce que c'est la violation de ce principe qui est à la base de l'émergence des sectes. Où il y a un homme, parce qu'il a quelques charismes, quelques dons spirituels, alors c'est lui. Donc vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne suivez pas ses prédications. C'est quoi ça? Non, non. Ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. Même ce que je suis en train de dire. La Bible parle, j'aime bien la Bible parle des disciples de Béré. Dans Actes chapitre 17, verset 11. La Bible dit, à propos de ses disciples, la Bible même loue les disciples de Béré par rapport à ceux de Thessalonique. Il dit que ceux de Béré étaient plus sages. Pourquoi? Parce qu'eux, ils prenaient tout ce qu'on leur disait et ils examinaient ce qu'on leur disait à la lumière des Écritures. Ils étudiaient les Écritures pour savoir est-ce que ce qu'on est en train de nous enseigner, ça correspond au texte? Est-ce que ça correspond au texte? Bien-aimés, soyons des étudiants du texte. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs. C'est pour vous et moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la technologie s'est tellement développée que moi, ici, dans mon téléphone, j'ai plus de 15 versions de la Bible. J'ai une dizaine de commentaires bibliques. J'ai des atlas ici. C'est devenu à la portée de tout le monde. Alléluia. Il y a des applications que vous pouvez... Hier, on parlait dans une réunion à propos de l'application d'études bibliques, des programmes d'études bibliques d'Emmaüs. C'est aujourd'hui. Vous pouvez commencer à étudier la Bible ou l'analyse à ma somme. Ici. Oui. La parole de Dieu est devenue... Et je comprends pourquoi la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché, c'est vrai, a abondé, mais la grâce de Dieu, Dieu multiplie encore la connaissance, la disponibilité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ne soyons, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Dieu, c'est vrai que le péché abonde dans ce temps de la fin, mais aussi Dieu, c'est comme si Dieu augmente le volume. Oui. C'est comme si on est dans un marché, il y a trop de bruit. Alors Dieu décide d'augmenter le volume pour que nous puissions l'écouter. Est-ce que nous écoutons Dieu? Alléluia. Est-ce que nous écoutons Dieu? Le principe suivant, c'est que Dieu n'est pas auteur de la confusion. Dieu n'est pas auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14, verset 33 et Jean chapitre 8, verset 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans les versions anglaises, on dit que Dieu n'est pas auteur de la confusion. Ça veut dire que Dieu ne peut pas vous parler et puis après, vous êtes dans la confusion. Non, ce n'est pas Dieu. Si après avoir prié, vous êtes dans la confusion, ça veut dire que Dieu ne vous a pas encore parlé. Continuez à le chercher jusqu'à ce que vous aurez la paix. Alléluia. Vous êtes dans la présence de Dieu, vous pensez que Dieu vous a parlé, et lorsque vous arrivez à la maison, vous communiquez ce que vous pensez que Dieu, c'est la volonté de Dieu, vous rencontrez l'opposition avec votre partenaire au foyer. Ce que Dieu vous a dit, vous le partagez à votre partenaire, ça crée des dégâts. Ce n'est pas Dieu. Oui. Dieu n'est pas auteur de la confusion. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas vous parler pour détruire votre foyer. Non. 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 Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Et Dieu dit, je hais le divorce. Et du verbe haïr. Je déteste le divorce. Donc, Dieu ne peut pas vous parler et puis vous dire, ce mari-là, vraiment, il faut que tu le changes. Il faut que tu divorces. Dieu, jamais, ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas nous parler et puis, avec sa parole, nous entrons ici en conflit. Non. Ça veut dire que quelque part, Dieu ne nous a pas encore parlé. Nous devons continuer à le chercher. Parce que c'est la chair qui aime les querelles. Les querelles, la Bible dit que c'est le fruit de la chair. Les disputes. C'est le fruit de la chair. Quand vous voyez une église se diviser, c'est la chair. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est la chair. La chair. Pas la chair ici. J'espère qu'on se comprend. Oui. Dieu n'est pas auteur de la confusion. Et enfin, le dernier principe, je m'excuse, j'ai pris trop de temps. Le dernier principe, c'est qu'on ne défend pas Dieu. Alléluia. On ne défend pas Dieu. Lorsque Dieu nous parle, ne cherchons pas à le défendre. Parfois, Dieu va nous dire des choses et ça donne l'impression que nous sommes en avance sur les personnes avec qui nous sommes. Ça arrive. C'est arrivé avec Manoah, la femme de Manoah. Lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu vous devrait annoncer la naissance de Samson, dans Juges chapitre 13, vous pouvez lire ça. Lorsque Dieu devait annoncer la venue de Samson, Dieu est d'abord apparu à la femme. Il n'est pas apparu à l'homme d'abord, il est d'abord apparu à la femme. Dieu apparaît à la femme et la femme va dire à son mari. Et j'aime bien l'attitude de la femme de Manoah. Elle ne s'est pas imposée sur son mari. Ouais, hausikiak, mais il y en a mon. Où l'imon? Mais il mon. Mien enjo ni limon. Manoah a fait une prière. Elle a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, reviens encore. Reviens encore. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'ils n'étaient pas encore d'accord tous les deux. Alléluia. Dieu est revenu. Il a exaucé cette prière. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous connaissions sa volonté. Alléluia. Dieu est revenu. Et il est encore revenu en commençant par la femme. Cette fois-là, la femme dira à l'ange, dit, attends un peu. Elle est allée appeler son mari. Alléluia. Elle est allée appeler son mari est venu et Dieu va répéter le même message, mot pour mot. Voilà, vous aurez un enfant. Il doit s'abstenir de vin, ainsi de suite. Alléluia. Ne défendez pas Dieu. Dieu est suffisamment puissant pour se défendre. Alléluia. Ah, Dieu m'a appelé pour faire ceci. Tout ça. Alors tu veux créer des dégâts? Non, si c'est Dieu qui t'a appelé, attends. Attends qu'il crée aussi la voie, n'est-ce pas? Qu'il planifie le sentier pour toi. Alléluia. Ne défendez pas Dieu, vous allez créer des dégâts. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Que je vous prie de vous rappeler ce que Dieu veut. Nous révéler sa volonté. Alléluia. Dieu veut nous parler. Dieu veut te parler individuellement. Et lorsque tu t'approches de Dieu, sache qu'il a donné la garantie à la croix. La croix ici, c'est le symbole, le signe de la garantie que tout ce que nous amenons comme requête dans la présence de Dieu, nous avons la garantie que Dieu va exaucer nos prières. Parce qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix dans la prière? Je ne sais pas comment le Seigneur t'a parlé ce matin. Est-ce qu'il y a un aspect, peut-être que tu réalises dans ton cœur, que j'ai vraiment, moi je n'ai jamais écouté Dieu. C'est peut-être ce qui monte dans ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais apprendre à t'écouter. Je vais désormais mettre du temps à côté pour te chercher, chercher à te connaître dans les Écritures. Je veux que tu m'aides, je reçois souvent des rêves, mais je veux grandir dans l'interprétation de ces rêves. Ou peut-être que chaque fois que tu dis quelque chose, ça arrive. Tu as peut-être un don de prophétie, mais que tu ne connais pas. Tu dis, Seigneur, aide-moi à développer ce don. Aide-moi à apprendre à t'écouter. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Nous allons prier, et pendant que nous prions, je vais inviter le pasteur qui va clôturer ces instants de prière. Mais élevons d'abord nos voix chacun individuellement. Prions chacun individuellement, et le pasteur va clôturer ces moments. Ô Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci parce que tu veux te faire connaître à nous. Tu ne veux pas nous laisser dans la confusion. Tu n'es pas une idole. Ce sont les idoles qui ne parlent pas, les statues, les dieux de ce monde qui ne parlent pas. Mais toi, tu es le Dieu qui parle. Tu t'es révélé, Seigneur, dans ta parole. Et ta parole est puissante. Ta parole est vivante. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous écouter. Tu veux exaucer la prière. Tu veux nous révéler des choses, des secrets, des choses cachées. Tu ne veux pas que nous marchions au courant de cette année dans la confusion. Tu ne veux pas que nous nous appuyions seulement sur nous-mêmes. Tu veux que nous apprenions à dépendre de toi. Seigneur, je prie qu'à chacun d'entre nous, que tu te révèles, que tu ouvres nos oreilles spirituelles, que tu nous ouvres les oreilles spirituelles, que tu nous rendes sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix. Aide-nous à faire taire, Seigneur, le bruit qu'il y a autour de nous et créer de l'espace pour toi dans nos agendas. Seigneur, merci pour ceux que tu as amenés ici ce matin et qui ont manifesté le désir de t'écouter. Ils réalisent, Seigneur, que cette année, ils ne peuvent pas commencer sans toi. C'est pourquoi ils disent, nous venons te chercher. Nous venons t'écouter, Seigneur. Seigneur, honore la foi de tes enfants. Honore la foi de tes enfants. Donne à chacun d'entre nous ici la direction, l'orientation, une parole, ô Dieu, pour cette année, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu as choisi ce moment pour parler à nos cœurs. Et c'est vrai, nous avons perçu ta voix. La chose pour laquelle tu voulais lui communiquer de manière spéciale, ce matin, te disons merci pour ça. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses que ta parole joue son rôle dans notre vie. Que cette parole puisse nous transformer. Que cette vérité puisse nous affranchir. Et que nous puissions partir d'ici libérés des chaînes qui nous liaient par rapport à ce que nous venons d'écouter relativement à ta parole qui nous parle. Dieu, tu parles réellement à l'homme. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, oui. C'est vrai que nous ne prêtons pas beaucoup attention, mais toi, tu prends soin de nous parler. Donne-nous, Seigneur, à changer aujourd'hui la manière de te chercher, la manière de t'écouter, la manière de nous engager par rapport à ce que tu nous dis. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur, bénis-les, afin que, dans la suite des temps, ils soient les canaux que tu vas encore utiliser davantage pour nous transmettre tes bénédictions à travers ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen.